dire en deux mots. Ça y est, j'ai commencé. Hein. Donc, l'extrait de Heidegger, quel est notre corpus? L'extrait de Heidegger que vous avez déjà. Lévinas, donc l'extrait sur le visage dans Éthique et Infini, et le travail qu'a fait Nathan autour de cet extrait. Trois extraits, donc situés dans Autrement qu'être, le dernier, deuxième grand livre de Lévinas, autour de la notion de vulnérabilité, de responsabilité et du trauma. Et puis, vous avez en plus de cela un petit texte qui s'intitule, que je n'ai pas photocopié cette fois, mais qui est important aussi et que je vais juste commenter rapidement ensuite, qui s'intitule La ruine de la représentation. C'est une sorte de petit chapitre de Lévinas qu'on trouve dans un ouvrage qui s'intitule lui-même En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger. En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger. Donc, c'est en fait un ouvrage assez précoce de Lévinas dans les années 30. Où il commente encore Husserl et Heidegger, il n'est pas encore vraiment en train de construire sa propre philosophie, mais on a déjà ce petit article, d'une certaine façon, qui est très éloquent, La ruine de la représentation, donc j'y reviendrai, parce que ça détermine bien la perspective de Lévinas, dans quoi il s'inscrit. Et puis pour compléter ce corpus, ce premier corpus autour de Lévinas, j'ajoute aussi, et c'est aussi pour commencer à synthétiser et faire un peu des liens pour vous, j'ajoute que, bien entendu, vous pouvez aussi vous reporter au travail qu'a fait Antonin, Autrui et la représentation, où il est également question de Lévinas. Hein, donc ça permet de faire déjà un petit peu une synthèse. Et en complément, en fait, du travail qu'a fait Antonin, où il est question de Lévinas, mais aussi de Merleau-Ponty, vous pouvez greffer à cela, dans ce corpus, le travail qu'a fait Wally. Sur l'article de Claudia Serban dans La phénoménologie de la perception et la critique que fait Merleau-Ponty de la représentation. Donc là, vous avez déjà tout un corpus. Lévinas et le lien avec Merleau-Ponty, je vais vous expliquer en fait un peu comment les choses se coordonnent chez ces deux auteurs. Mais voilà un premier corpus, avec en amont Heidegger. Et puis ensuite, donc, je vous ai indiqué deux autres perspectives, dont on va voir qu'en fait elles sont comme une sorte de variation sur la problématique de Lévinas, à travers d'autres figures justement de la critique de la représentation. Donc d'une part chez Michel Henry, donc un philosophe français qui est décédé au début des années 2000, qui est un successeur de Husserl, Heidegger et Sartre, grosso modo, et dont je vous ai photocopié deux petits extraits issus d'un ouvrage, de son premier grand ouvrage en fait, qui s'intitule L'essence de la manifestation, et qui a été publié en 1963, donc c'est déjà assez ancien, mais on a là en fait vraiment les éléments centraux de sa position par rapport à la représentation. Donc je vous ai mis un premier extrait qui se trouve au paragraphe 18 et qui définit ce qu'il entend par représentation dans sa lecture critique. Et puis un deuxième extrait beaucoup plus tardif dans l'ouvrage, au paragraphe 70, qui est où il fait apparaître le contrepoint finalement de la représentation pour lui, qu'il nomme du terme d'affectivité ou d'auto-affection. Donc on va revenir là-dessus rapidement. Je vous ai aussi mis un article de Jean-Michel Longuenot, qui est une sorte de parcours extrêmement clair et pédagogique de la philosophie de Michel Henry. Depuis l'affectivité, justement, depuis l'auto-affection. Donc c'est un article, vous n'aurez peut-être pas le temps de le lire, si ça vous intéresse particulièrement, bien sûr, vous pouvez le lire, il se lit bien, il se lit plutôt très bien, et c'est une façon d'approfondir, d'entrer davantage dans la philosophie de Michel Henry, puisque bon, là vous n'en avez qu'une sorte de petite vignette, enfin c'est pas très développé. Hein. Et puis enfin, je vous ai aussi envoyé un extrait, pardon, d'un texte du troisième auteur que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, donc qui est Jean-Luc Marion, qui est aussi un phénoménologue contemporain. Lui, donc, c'est quelqu'un qui est encore vivant. Il est né en 1946, donc il a 75 ans. Et donc, il a publié beaucoup d'ouvrages, mais il s'inscrit dans la filiation, lui aussi, de Husserl, Heidegger et de toute cette phénoménologie française. Donc représenté par Lévinas et Michel Henry notamment. Et donc je vous ai photocopié un extrait d'un de ses ouvrages qui est donc Dieu sans lettres, un ouvrage de 1982, donc un peu ancien également, où il est question, donc aux pages 26-28 aussi, de ce que Jean-Luc Marion a mis en scène autour de la relation et différence entre l'idole et l'icône. Donc c'est un philosophe qui est très marqué par la théologie, il est lui-même catholique. il s'en cache pas, c'est tout à fait assumé de sa part, mais il fait une sorte de relecture philosophique et phénoménologique, en fait, de ces concepts théologiques, et dans un cadre qui est aussi un cadre d'une critique de la représentation. Donc là aussi, c'était vraiment, à mon sens, très intéressant à mobiliser, et Jean-Luc Marion est vraiment dans la filiation de toute cette phénoménologie française. Il en est comme une sorte de point d'aboutissement ou de variation problématique. Donc voilà le corpus dans lequel on va entrer évidemment de manière un peu rapide. Hein. Enfin, je vais faire un peu des coups de sonde. Je vais essayer surtout de vous restituer une sorte de mouvement d'ensemble, donc d'esquisser justement une sorte de synthèse pour vous faciliter le travail, hein, et puis vous permettre vraiment de prendre vos marques et pas être noyé ou perdu dans le labyrinthe en fait textuel parfois de ces auteurs, hein, qui sont pas forcément toujours complètement on n'est pas dans la clarté et distinction cartésienne, hein, donc parfois ça demande faut rentrer dans les textes, et de toute façon, à vous permettre de vous y orienter, je vais essayer de vous donner une ligne de force, hein, sur ces perspectives. Alors avant cela, de manière rapide, là aussi en guise de synthèse, pour essayer justement d'amorcer une sorte de remontée synthétique, hein, c'est le but de ce cours et puis de ce que je voudrais vous permettre de faire de votre côté, je voudrais simplement reprendre les séquences de notre cours, rapidement, en guise de résumé ou déjà d'esquisse de synthèse, en reprenant en fait de façon évidemment très rapide toutes les séquences qu'on a parcourues, mais aussi en potentialisant et en capitalisant ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Donc c'est évidemment très court et très rapide ce que je vais vous proposer, mais ça vous permettra de vous mettre en mouvement, hein, de vérifier où vous en êtes dans tout ce qu'on a vu. Et en fait, je vais distinguer du coup 4 séquences pour essayer d'aller à l'essentiel, 4 séquences principales dans ce qu'on a parcouru ensemble dans l'année. Donc une première séquence qui en réalité correspond à ce qu'on a vu au premier semestre, où on s'est inscrit dans quelque chose comme une sorte d'histoire de la représentation, hein, on l'avait déjà dit au début de l'année et puis au début du second semestre, une histoire de la représentation où on a essayé d'explorer grosso modo quelle était la structure de la représentation et quelle était sa dynamique propre. Donc la structure de la représentation, on a essayé de la déterminer à l'aide notamment de ce concept de ressemblance, dans ce qu'il a à la fois de pertinent et de problématique, et les limites de cette ressemblance, et en quoi les limites sont elles-mêmes productrices du concept même de représentation. Donc je laisse de côté les auteurs, hein, qui se greffent à cela, mais bon, vous les avez en tête, hein, notamment, il faut penser à essentiellement à Platon, Aristote, Descartes et Kant, essentiellement. C'est ces auteurs-là qui s'organisent dans cette configuration. Et on a aussi donc amorcé quelque chose comme une conception dynamique de la représentation, notamment à travers la référence à Bolzano et à Husserl, et au concept d'intentionnalité, qui permet de penser la représentation comme un acte et pas comme un contenu ou comme un état. Ça va très très vite, hein, mais bon, grosso modo, voilà ce qu'on a essayé ce qu'on a acquis en fait pendant ce premier semestre. Ensuite, on a une deuxième séquence dans laquelle on est entré au tout début du second semestre et qui pourrait se nommer critique de la représentation au pluriel. Et là, on l'a amorcé ensemble en présentiel à l'aide de Nietzsche notamment. Hein, donc c'est là qu'on a vraiment été explorer la position Nietzsche dans son ambivalence à la fois comme critique à travers la critique des arrière-mondes essentiellement. Et comme réinvestissement à travers le perspectivisme, c'est-à-dire une conception de la représentation comme pluralité, comme point de vue, et du coup comme processus et pas comme état. Hein, le processus d'interpréter, le processus de la perspective plutôt que l'état. Donc il y a un décalage fondamental par rapport à ce qu'on avait vu avant. Et puis après, à partir du moment où le confinement a commencé, on est entré dans une autre dynamique, mais bon, on a poursuivi à travers donc, la généalogie de Nietzsche chez Schopenhauer, d'une part, et dans une deuxième séquence de critiques, je vous ai aussi proposé donc un segment de cours autour de la critique de Marx, la critique marxienne de la représentation et sa généalogie chez Feuerbach. Donc on a là, si vous voulez, deux grandes avancées qui sont, on pourrait dire, des sortes de philosophies précurseurs de ce que dans les années 60 on a appelé l'ère du soupçon, avec des figures, alors ça c'est au XXe siècle, hein, en 1960 et suivante, chez des auteurs comme Deleuze par exemple, on a des auteurs qui sont des maîtres du soupçon, hein, on les appelle les maîtres du soupçon, et qui eux-mêmes remontent en fait à Nietzsche et Feuerbach essentiellement, et aussi à Freud d'une certaine façon, donc à ces auteurs du XIXe, pour aller déceler justement ce qu'il en est jeter un doute finalement sur la réalité d'un certain nombre de concepts. Donc créer une sorte d'attitude critique, mais qu'il nomme même un soupçon sur la modernité. Donc ces auteurs, ce sont des auteurs qui nous ont permis de rentrer dans une sorte de, pour utiliser un autre auteur et un autre vocabulaire, dans une sorte de déconstruction de la représentation. Ça, c'est plus le vocabulaire de Jacques Derrida, donc auteur des années 60 aussi, contemporain de Deleuze. Et donc, on y est entré à travers ces auteurs phares, hein, qui sont donc Nietzsche, Marx, Feuerbach, et à sa façon Schopenhauer, même si Schopenhauer est plus un déclencheur, en fait, qu'un véritable révélateur de cette déconstruction. Donc ça, c'est un deuxième grand moment qu'on a parcouru comme on a pu à travers les difficultés du confinement. Et puis en parallèle, en fait, alors c'était pas complètement chronologique parce que de fait ça s'est fait un peu en parallèle et puis aussi au gré de vos propres présentations et puis de ce que j'ai essayé de faire à la librairie Colbert lors de la présentation donc du livre sur la représentation mentale, on a eu une sorte de troisième séquence que chronologiquement je vais situer en troisième, hein, mais qui dans les faits en réalité s'est un peu passé parallèlement dans le temps pour nous, mais une troisième séquence donc consacrée finalement à un champ d'exploration de la représentation. Dans l'approche philosophique qu'est la philosophie de l'esprit, en lien avec des problématiques scientifiques, soit liées aux sciences exactes, soit en sciences humaines. Donc on a un autre massif, un autre champ ici qui correspond à une troisième séquence, on pourrait dire, où finalement ce qui a été en jeu, ça a été non pas de rendre compte simplement de la structure ou de la dynamique de la représentation, non pas de la critiquer, ça c'est les deux premières étapes, mais d'une certaine manière, je le formulerai ainsi, de travailler avec les représentations. Le constat qu'on est entouré et environné de représentations, que l'être humain est un être de représentation, et comment il travaille avec, hein, d'où la double question qui ordonne ce volume sur les représentations mentales, comment les concevoir, comment s'en passer. Donc une sorte de mouvement double, vous voyez, qui d'une certaine manière, on pourrait dire, recoupe les deux premières séquences, mais qui essaye de les situer sur le terrain contemporain d'une autre problématique philosophique et qui du coup interroge ce qu'on appelle représentation mentale, mais aussi collective, mais aussi symbolique, et qui se situe en fait dans une perspective qui est ni une perspective descriptive, comme la première séquence, ni une perspective critique, mais une perspective qu'on pourrait appeler fonctionnelle ou fonctionnaliste, de manière un peu plus négative, instrumentale, c'est-à-dire qui cherche à comprendre finalement en quoi la représentation est un outil, à quoi elle nous sert. On pourrait dire que c'est une perspective utilitariste, si on reprenait un vocabulaire plus ancien du XIXe siècle, mais en tout cas, c'est quelle est la fonction, quel rôle la représentation joue en tant que fonction, quel rôle elle joue. Donc on est dans une forme, avec cette troisième séquence, on pourrait dire globalement dans une sorte de pragmatisme. À quoi ça nous sert, pourquoi on en a besoin, des représentations. Donc c'est un peu ça l'espace dans lequel on s'est situé d'un point de vue, je dirais, épistémologique, peut-être, dans cette troisième séquence. Donc là, vous avez un certain nombre de travaux qui ont été réalisés par les uns et les autres parmi vous. Donc le travail sur l'article de Pascal Ludwig, donc, que vous avez réalisé, je crois que c'était donc Benjamin et Meilig. Le travail d'Émilie et de Lauriane sur Lévi-Strauss, sur Von Uxküll, aussi de Cinzia sur la Société du spectacle de Debord, et peut-être j'en oublie, mais en fait, ce que vous avez fait, ça s'est greffé à cette question, en fait, grosso modo, hein, et ça permet d'étoffer, de nourrir cette troisième séquence. Et puis, donc là, maintenant, on entre dans une quatrième séquence, donc c'est un peu rapide et un peu conclusif également, qui va nous faire entrer dans quelque chose qu'on pourrait nommer les limites de la représentation. Alors, de façon un peu différente du geste critique de la deuxième séquence, dans la mesure où il ne s'agit pas simplement d'une déconstruction, où on montre que la représentation, d'une certaine manière... dans les perspectives de Nietzsche, de Feuerbach ou de Marx, on pourrait dire que c'est une critique un peu axiologique, c'est-à-dire la représentation, c'est mal. Hein. C'est-à-dire que à cela, Marx substitue la transformation, l'idée de transformer la société, il ne faut pas seulement la représenter. Nietzsche nous dit que c'est une illusion. Donc, vous voyez, il y a une dimension axiologique, il y a quelque chose qui dévalorise dans ces critiques. Dans la phénoménologie française, donc les auteurs que je vais vous présenter rapidement, on n'est pas dans cette perspective axiologique. C'est pas une critique en ce sens, mais c'est plutôt faire surgir les limites de la représentation. Donc c'est se situer, on pourrait dire, aux limites de la représentation. Donc c'est ouvrir un autre espace. C'est ouvrir un espace qui soit une sorte d'excès, mais qui en même temps permet d'en recomprendre aussi la dynamique et de la réenraciner dans une source autre. Et donc il faut peut-être l'entendre davantage comme au sens kantien, donc de la limite par rapport à la borne. C'est pas juste mettre un coup d'arrêt à la représentation, ça ce serait une borne, mais c'est ouvrir un autre espace, donc c'est créer de l'illimité. Hein, c'est une limite qui est dynamique, qui est vectrice de quelque chose qui est illimité, hein, qui va ouvrir sur autre chose. Donc c'est ouvrir sur une forme de, on pourrait dire, de transgression, ou une sorte d'au-delà de la représentation. Et en ce sens, en fait, tous ces auteurs, on pourrait dire qu'on peut les placer sous le signe d'une notion qu'on n'a pas explorée jusqu'à présent, mais qui, là, dans ce cadre-là, joue vraiment un rôle essentiel, qui est le terme de d'irreprésentable. Donc c'est cette notion que je voudrais ici introduire et essayer d'en faire une sorte de fil conducteur pour ordonner en réalité ces différentes perspectives. De l'irreprésentable, vous voyez, donc l'irreprésentable, c'est une notion négative, hein, c'est ce qu'on ne peut pas représenter. Donc quelque chose qui excède la représentation, qui se situe au-delà, hein, qui n'est pas accessible d'une certaine façon, et qui d'une certaine manière donc encore une fois correspond à un mouvement d'excès par rapport à un cadre donné dans lequel on s'est plus ou moins quand même situé jusqu'à présent. Donc c'est autour de cette notion d'irreprésentable que je voudrais maintenant essayer d'avancer. Et en réalité, ce que je vais simplement faire, c'est, à travers ces trois philosophes et les quelques extraits que je vous ai distribués, c'est essayer de situer, de déterminer un certain nombre de figures de l'irreprésentable. Alors, la formulation est paradoxale, hein, parce que justement, si c'est irreprésentable, c'est pas figurable d'un certain point de vue. Hein, donc, vous pourriez me dire, mais c'est contradictoire, on ne peut pas figurer l'irreprésentable. Enfin, donc évidemment, je vais jouer sur cet oxymore, hein, je vais jouer sur cette sorte de contradiction apparente, ce paradoxe, pour vous montrer en réalité comment ces auteurs s'y prennent pour à la fois faire surgir cette irreprésentable, cette dimension limite de la représentation, et en même temps lui donner une sorte de figuration. Hein, donc c'est une sorte de dynamique paradoxale, mais justement ces trois auteurs sont dans ce paradoxe en fait et travaillent avec ce paradoxe. Alors les trois figures en question, donc figures entre guillemets, hein, chez ces trois auteurs sont portées, on pourrait dire, par trois notions qui sont aussi des limites dans le sens de Kant, hein, on est aux limites de, hein, donc des horizons, on pourrait dire, hein, des choses que qu'on ne voit plus complètement tout en le voyant un peu. Hein. On est dans une sorte de, voilà, d'un point de vue expérientiel, on pourrait parler d'une sorte de clair-obscur ou de quelque chose qui se voit sans se voir, hein, ou un invisible qu'on essaye quand même de rendre visible. Et donc ces trois figures ou ces trois notions sont donc respectivement, chez Lévinas, de façon globale, c'est la notion d'altérité qui va organiser en fait l'irreprésentable. Pour lui. Chez Michel Henry, c'est la notion que j'ai déjà évoquée d'auto-affection ou d'affectivité, donc la sphère qu'on appelle aujourd'hui la sphère des émotions, mais que lui pense plutôt comme une notion unifiée, sous la notion d'auto-affection. Et chez Jean-Luc Marion, la figure, entre guillemets, qui caractérise cet irreprésentable, c'est la figure de Dieu ou du divin. Donc on a une sorte de déclinaison, on pourrait dire, une variation sur des formes, entre guillemets, hein, formes, entre guillemets, forcément, d'irreprésentables, qui vont être caractérisées donc, par chacun de ces trois auteurs à travers donc, une interrogation du coup du rapport au sujet. En fait, ce qui va se jouer, c'est de créer une sorte de de compréhension différente de ce qu'on appelle sujet ou subjectivité à partir de là. Chez Lévinas, la promotion de l'altérité et donc de la figure d'autrui, mais de l'autre en général, va le conduire à mettre en question une subjectivité. Ils vont tous les trois en fait mettre en question une subjectivité comprise comme souveraine, comme étant en position de maîtrise. Et chez Lévinas, ça passe par une conception radicale de la passivité. Chez Michel Henry, ça passe par une conception de la souffrance, notamment, mise au premier plan, ou de l'épreuve, en fait, de l'épreuve que vit la subjectivité. Et chez Jean-Luc Marion, ça passe par une conception qui est une conception d'un sujet en retrait, d'un sujet qui est considéré comme, comme dépossédé, en fait, de son activité, ou comme il l'appelle, en fait, il utilise un terme pour le nommer, il utilise le terme de « adonné », hein, « a-d-o-2-n-e », accent aigu. Donc comme quand on s'adonne à une activité, au sens où on s'abandonne à une activité. Donc c'est une forme de passivité, on pourrait dire aussi. Mais ça, voilà, c'est le terme de « adonné » en fait, qu'il utilise pour essayer de nommer ce sujet qui n'est plus un sujet souverain ni en position de maîtrise. Donc on a trois figures qui sont des figures limites, donc qui excèdent justement le cadre de la représentation chez ces trois auteurs. Et en fait, du coup, la représentation va... va se lire à travers un certain nombre de termes qui sont mis à l'épreuve, justement. C'est-à-dire que la représentation, pour ces auteurs, ça va être synonyme d'une forme d'objectivation, ça va être synonyme d'une forme d'extériorité, ça va être synonyme de quelque chose qui relève d'une théorisation abstraite ou de quelque chose qui relève du champ du concept. Le concept étant compris comme justement une réalité qui, au sens littéral du verbe latin, capere, hein, où on prend, donc où on est dans une sorte d'emprise ou de capture qui nous met à l'extérieur de nous-mêmes. Donc tous ces termes, objectivation, extériorité, théorie ou concept, ce sont des termes que ces auteurs vont mettre de côté, en tout cas qu'ils vont considérer comme relevant du champ de la représentation. Donc, vous voyez, c'est assez large, évidemment, on pourrait dire ça, tout ça est assez hétérogène, mais en réalité, ils essayent d'unifier ce concept de représentation pour en faire surgir son excès. Et donc, à cela, ils opposent de manière assez unanime, en fait, le primat. Donc à cette conception de la représentation comme objectivation, extériorité, théorie et concept, ils opposent le primat d'un soi, donc d'un sujet entendu comme soi, donc dans ses différentes déclinaisons donc de passivité, d'épreuve ou de retrait, d'un soi qui est situé, selon eux, selon tous ces auteurs, qui est situé en deçà de la distinction du sujet et de l'objet. Donc on a vu que cette distinction sujet-objet, elle orchestre, on l'a vu au premier semestre, elle orchestre ce que globalement on appelle la théorie de la connaissance. Hein, et c'est dans le cadre d'une relation et d'une distinction du sujet et de l'objet que se construit le rapport justement à ce qu'on peut connaître. Donc ça, on l'a vu notamment chez Descartes et chez Kant. Et donc le geste majeur de ces auteurs, eh bien, ça va être justement de nous situer en deçà de cette distinction, de considérer qu'il y a un en deçà, il y a quelque chose... qui relève de notre expérience, qui relève du soi, qui relève de ce que nous sommes en tant que sujet soi, et qui ne peut pas, se réduire finalement à la position d'un sujet connaissant un objet et se distinguant de cet objet. Alors on en a un geste précurseur déjà chez Husserl, hein, de cette remise en question, ou de ce déplacement à travers le motif de l'intentionnalité, hein, puisqu'on a déjà dans l'intentionnalité quelque chose comme une dynamique, comme une direction qui cherche à unifier la relation sujet-objet en proposant au contraire une ouverture, une structure d'ouverture au monde, et ça va être prolongé aussi par Heidegger, hein, où sans plus Heidegger creuse dans cette direction. Donc Heidegger prolongeant finalement le geste de Husserl de cette recherche donc d'une dynamique de la relation du sujet au monde, non, qui permet donc de faire fi de la distinction et de la dualité du sujet et de l'objet. Dans la position de Heidegger, finalement, ce qui va être mis au premier plan, c'est l'idée d'un être, hein, le terme, la notion même d'être, qui excède finalement la relation sujet-objet et qui correspond à la structure d'ouverture au monde. Hein, donc on a là quelque chose, Heidegger cherche à construire cet en deçà, hein, de la relation sujet-objet à travers donc un être qui est tout entier ouverture au monde. Donc on n'a plus affaire à un sujet qui serait clos sur lui-même, mais il est justement cette structure d'ouverture au monde, déjà. Et puis on en a un geste aussi tout à fait parallèle chez Merleau-Ponty, déjà dans la phénoménologie de la perception, et ensuite dans le visible et l'invisible, plus tard dans les années 60, autour du fil conducteur, cette fois du corps. Donc, c'est pas l'être, comme chez Heidegger, mais c'est le corps qui va servir de matrice, qui va ensuite s'appeler, donc, dans le visible et l'invisible, non plus simplement le corps propre, mais la chair, et qui va devenir donc le vecteur à partir duquel eh bien, se joue justement cet en deçà de la relation du sujet et de l'objet. Hein, cette unité, cette sorte d'unité originaire qui finalement est ce à partir de quoi se déploie cette distinction du sujet et de l'objet. Hein, donc on a là la recherche, on pourrait dire que Heidegger comme Merleau-Ponty ont une position qu'on pourrait nommer moniste. Un moniste, c'est-à-dire qu'il pense, il essaye de penser l'unité de l'expérience. Et cette unité de l'expérience, elle peut se désigner en termes d'être, comme elle peut se désigner en termes de corps et de chair, notamment. Hein. Donc dans le texte de Merleau-Ponty, dans la phénoménologie de la perception, on l'avait vu déjà l'année dernière, hein, on a cette remise en cause de la dualité des philosophies réflexives et de la dualité sujet-objet, et la recherche donc d'une expérience corporelle qui peut jouer le rôle d'un pôle d'unité, finalement, de mon expérience. Donc si je restitue ces mouvements, c'est simplement pour vous montrer comment ensuite, à partir de là, en fait, ces trois auteurs, Lévinas, Michel-Henry et Marion, vont radicaliser en fait cette posture. C'est-à-dire qu'ils continuent à s'y inscrire, mais ils vont la radicaliser, les postures notamment de Husserl, Heidegger et Merleau-Ponty, qui sont une sorte de premier segment et de premier socle, où un bouger se met en place par rapport à cette distinction sujet-objet, ils vont la faire bouger davantage encore, cette distinction et cette remise en cause, et ils vont, finalement, plus encore que ces auteurs-là, ils vont retrancher le sujet, y compris donc l'être, le corps, ils vont les retrancher dans l'invisible, dans quelque chose qui ne sera plus donné dans une sorte d'apparaître, et dans quelque chose qui va devenir absolu en termes de passivité. Donc on a un mouvement de radicalisation chez Lévinas, Michel-Henry et Marion, et de retrait du sujet dans l'invisible. Donc le corps et l'être, finalement, sont pour ces auteurs encore trop visibles, encore trop apparaissants, encore trop donnés dans le monde, d'une certaine façon. Donc on a une sorte de recherche d'un noyau plus radical, finalement, de conception de cette subjectivité. Et donc cette subjectivité, elle va être donc chez ces trois auteurs ordonnée autour donc de l'autre chez Lévinas, de l'affection chez Michel-Henry et du divin chez Marion. Voilà, pour essayer vraiment de repenser les choses de la façon la plus synthétique possible, voilà grosso modo ce que ça donne. Et donc voyez, c'est comme si c'est comme si on franchissait à chaque fois des étapes où on allait de plus en plus loin le plus loin possible finalement d'une représentation qui est une sorte de résultante terminale et insuffisante et largement construite finalement de notre fonctionnement, comme si on essayait de creuser en fait ce qu'il en est de notre rapport à soi de la façon la plus originaire possible. Donc le rapport à soi le plus originaire pour Lévinas, c'est l'autre. Le rapport à soi le plus originaire pour Michel-Henry, c'est l'affect. Et le rapport à soi le plus originaire pour Jean-Luc Marion, c'est Dieu. Donc comme si on cherchait finalement des zones du soi qui soient les plus en relation finalement avec cette dimension et qui mettent le plus en question finalement ce qu'il en est de la représentation qui du coup apparaît comme une sorte de succédané, quelque chose qui est très loin et très subséquent très construit finalement par rapport à un rapport à soi qui qu'il cherche à saisir de la manière la plus intime et la plus expérientielle possible. Je vais essayer maintenant de là aussi de condenser un peu et puis au moins de vous donner des éléments sur chacun de ces auteurs. Et vous pourrez évidemment aller regarder plus en détail les extraits que je vous ai envoyés hier à ce propos. Donc on va commencer par Lévinas, hein, on va les prendre l'un après l'autre. On peut considérer, vous pouvez considérer que ces trois auteurs sont offrent une sorte de variation sur un soi qui est une sorte d'originaire irreprésentable. On pourrait dire ça comme ça. Hein, donc c'est une position très radicale. Certaines objections ont été faites pour dire justement que c'était trop radical. Hein, c'est-à-dire qu'on allait trop loin, finalement, dans cette perspective, dans cette recherche originaire. Hein, et qu'en fait, d'une certaine manière, ce n'était pas tenable, parce que, de fait, en réalité, on pourrait revenir à la séquence 3 en disant « mais nous sommes des êtres de représentation, donc on ne peut pas s'en passer en dernière instance. Ça a une fonction, ça a une utilité, donc pourquoi ce geste aussi radical ?» Hein, vous voyez, ça pourrait être une esquisse de critique, ou en tout cas de... Voilà, d'interrogation, enfin, une position aussi peut-être un peu considérée comme absolutiste, hein, d'une certaine manière. Mais bon, je ne vais pas tout de suite désamorcer le processus, hein, je vais essayer de vous montrer l'intérêt d'abord de chacun de ces auteurs et de ce qu'ils ouvrent. Donc on peut considérer en fait que Lévinas, à sa façon, dans les deux grandes étapes de son travail, donc dans Totalité infinie d'un côté dans les années 60 et dans Autrement qu'être ensuite à la fin des années 80, à l'aide de deux concepts, le visage d'un côté et le trauma de l'autre, hein, alors concept entre guillemets, hein, puisque on peut dire qu'une certaine manière Lévinas met en question la notion même de concept, hein, donc il fait une sorte d'épopée sur le concept, sur la notion, mais bon, voilà, ce sont des dimensions, en tout cas, hein, de ce qu'il met en avant. Donc le visage d'un côté, le trauma de l'autre. Ce sont donc des notions qui vont lui servir, ou des dimensions qui vont lui servir pour faire ressortir justement la dynamique même de cet irreprésentable. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir à travers... donc la thématique du visage et la thématique du trauma, même si la notion de thématique, elle aussi, il faut la déconstruire parce qu'en réalité, la défaire parce qu'en réalité, il ne s'agit pas encore de thème. On a affaire à des dimensions qui mettent à l'épreuve ou qui mettent en difficulté notre possibilité même donc de rendre compte ou d'accéder à la réalité qui nous est donnée. Alors le visage, on le voit très bien dans le petit texte que Nathan a commenté, hein, puisqu'on a affaire, au fond on peut le dire assez simplement, le visage pour Lévinas, c'est justement l'opposé de ce qu'on appellerait la physionomie, hein, c'est-à-dire le fait, on a chacun au sens commun un visage, mais qui est en fait un ensemble de traits, donc une somme de traits. Et c'est ce que Lévinas, et en physiologie, on appelle la physionomie, hein, c'est-à-dire voilà, quelle est notre expression, quelles sont nos expressions. Et en fait, ce que Lévinas nous dit, c'est qu'il redéfinit le visage, en fait, il lui redonne un sens autre, en disant, en fait, le visage est une unité, et quelque chose qui est une sorte de... Il appelle ça une cohésion sans concept, pour dire, en fait, c'est le visage est une unité qui est, on pourrait dire, une totalité, qui ne peut pas être la somme de tous les traits de notre expression, et qui excède justement cette somme, qui va au-delà. Donc en fait, l'idée de Lévinas, c'est de dire qu'en fait, il renomme le terme visage autrement, en disant cela, en insistant sur le fait que justement le visage ne correspond pas du tout à quelque chose qu'on pourrait voir, hein, qu'on pourrait donc, en ce sens, qui ne se présente pas, et donc qui a fortiori ne se représente pas, puisque, en fait, quand je dis que je vois votre visage, c'est un peu une manière un peu facile de parler, parce qu'en réalité, je vois les traits de votre visage. Hein, quand je vous regarde, vous me regardez, eh bien, si vous voyez quelque chose, vous allez voir des yeux, vous allez voir des cheveux, vous allez voir une bouche, vous allez voir... Mais dire que je vois votre visage, c'est un peu une sorte de manière un peu rapide, un peu fausse de parler, puisqu'en réalité, je ne vois que des traits de visage. Et donc, l'idée de Levinas, c'est de dire qu'en fait, le visage, justement, c'est la forme première de l'irreprésentable, de ce qui ne peut pas être représenté. Et qui excède justement donc la possibilité même de le voir. Hein. Alors ceci va se radicaliser dans son deuxième grand texte, dans Autrement qu'être, ou Au-delà de l'essence, puisqu'en fait, à travers ce qu'il va exprimer en termes de traumatisme, il va essayer de montrer qu'en fait, le trauma ou le traumatisme, dans ces deux termes qui ne sont pas différenciés chez Levinas, eh bien, c'est quelque chose qui résiste là aussi à la représentation. Alors dans les petits extraits que je vous avais transmis, je ne sais pas si vous les avez lus, mais je peux peut-être les lire rapidement. Ils sont assez courts, donc ça se lit assez bien. Le premier extrait que vous trouverez, que vous pourrez reprendre dans vos extraits, qui se trouve à la page 175 d'Autrement qu'être, Levinas nous dit passivité, donc c'est beaucoup de phrases nominales. Dans son écriture, il est très, comment dire, il invente aussi une nouvelle langue, une nouvelle écriture. Passivité dont la source active n'est pas thématisable, passivité du traumatisme, mais du traumatisme qui empêche sa propre représentation, du traumatisme assourdissant, coupant le fil de la conscience qui aurait dû l'accueillir dans son présent. Donc là, on a le mot représentation qui apparaît explicitement. Hein, et en fait, ce que Levinas essaye de nous dire, c'est que à travers cette épreuve du traumatisme, qui justement n'est pas dissible, n'est pas expérimentable, à laquelle on ne peut pas se relier, eh bien, on a quelque chose qui justement ne permet pas la mise en route de quelque chose comme une représentation. Dans les autres formulations, on a aussi la même... c'est encore plus fort hein, quand il nous dit « Le réel, précédent et surprenant le possible, ne serait-ce pas la définition même du présent, à travers les filets tendus de la conscience, traumatisme qui m'a absolument surpris, l'ordre n'a jamais été représenté, car il ne s'est jamais présenté. Pas même dans le souvenir, dans le passé venant en souvenir. » Donc en fait, le point d'appui de Levinas, c'est de montrer qu'en fait, ce trauma, et on le sait à travers aussi la psychanalyse et puis beaucoup d'études aujourd'hui des syndromes post-traumatiques, ce trauma, eh bien, il ne répond à aucun vécu. Il ne peut pas être l'objet d'une expérience parce que justement, il n'a pas été, à l'époque où il a eu lieu, finalement, il n'a pas été vécu. Donc il ne peut pas y avoir de mémoire de cet événement, il ne peut pas être représenté parce qu'il ne s'est pas présenté. Levinas nous le dit ici très explicitement. Hein. Mais si on essaie de le reprendre par rapport à des événements qu'on a pu vivre hein, et qui peuvent relever de ce genre entre guillemets, d'expérience, qui n'en est pas une, eh bien, on a bien ce processus hein, et c'est cette incapacité finalement à revenir à ce qui a été vécu parce que justement ça n'a pas été vécu explicitement en conscience. Et c'est passé tellement sous la conscience ou tellement dans une sorte de zone trouble qu'en réalité ensuite rien ne peut être repris en représentation. Donc toutes les difficultés finalement de thérapie par rapport à des traumas qui ont été vécus, c'est qu'elles doivent se dérouler en deçà de la conscience, en deçà de la verbalisation. Et par exemple, on doit recourir à l'hypnose, on doit recourir à des thérapies corporelles pour justement se situer au niveau archaïque où a été vécu le trauma. Pour pouvoir en faire quelque chose, parce qu'en réalité, il n'est pas disponible. Il n'y a pas d'expérience qui a été vraiment conscientisée à ce moment-là. Donc en fait, à travers ce que nous dit ici Levinas, eh bien, il nous donne une sorte de point limite, si vous voulez, de zone limite de la représentation. C'est ça qu'on peut appeler ici l'irreprésentable. Hein, c'est pas juste un mot irreprésentable au sens où on ne pourrait pas se le représenter pour des raisons générales, théoriques, logiques ou autres. C'est quelque chose de complètement logé dans notre expérience ou dans la non-expérience, justement, hein, de ce qui s'est passé. Hein, donc c'est irreprésentable en ce sens. Alors, à travers le visage, vous voyez, on avait une sorte de petit avant-goût de ce que pouvait être l'irreprésentable pour Levinas, mais là, on le voit de manière beaucoup plus radicale et on comprend à partir de là en quoi, finalement, le trauma joue chez Levinas une sorte d'expérience matrice ou de non-expérience matrice. qui est par ailleurs lié dans sa philosophie et dans son vécu et dans ce qu'il a traversé à un phénomène. Lévinas est un philosophe qui est lituanien, mais qui est juif aussi, et qui a donc vécu et qui a été traversé par le moment de la Shoah, notamment. Et là, il y a une expérience, une sorte d'expérience source, entre guillemets, qui a en grande partie orchestré en fait sa conception. Ah, il y a Bob qui revient. Tac. Excusez-moi, j'ai vu réapparaître. Il ne devrait pas tarder, je pense. Jonction en cours. Voilà. Petite interruption. Donc, voyez, en fait, on a là une expérience, une sorte d'expérience originaire chez Lévinas qui lui sert de point d'appui pour ensuite thématiser tout ce qu'il va essayer de penser sous cette notion d'irreprésentable et de passivité radicale, de passivité originaire du sujet. Voilà, la relation à soi du sujet, relation hautement paradoxale, puisque justement, on ne peut pas se relier. Il y a une sorte de déliaison ou de non-relation à soi qu'on pourrait, si on avait le temps, aller explorer plus profondément, notamment en allant regarder aussi comment Lévinas se rapporte au texte de Jacques Lacan pour penser ce réel dont il parle dans la citation, qui est vraiment le concept lacanien. Il est entre guillemets le terme réel d'ailleurs dans la citation de Lévinas. Et le réel dont parle Lacan, c'est justement une dimension qui n'est pas reliée, hein, qui est disloquée. Donc c'est un soi, de ce point de vue-là, qui n'a pas grand-chose d'un soi au sens d'une unité, d'une consistance, mais qui justement est disloqué. Hein, qui est... Oui ? Quelqu'un ? Oui ? Il y avait une question ?
Non, non, c'était juste que vous avez quitté par... S'ils avaient un problème, j'avais quitté. Quoi.
Oui, j'ai vu que vous étiez parti, mais je vous ai vu revenir, donc je vous ai réadmis. Alors, okay. Bon, il y a quelque chose, il y a des points que vous n'avez pas eu, mais vous les aurez à l'oral, vous pourrez reprendre l'audio de toute façon. Hein. D'accord ?
C'est pas grave.
Okay. Très bien. Voilà, donc je développe pas plus sur Lévinas, mais. Dans ce que je vais vous envoyer en termes de segments de cours, vous verrez, je vous ai mis des passages un petit peu plus développés, un peu plus rédigés de ce point. Donc vous pourrez relire, il y a quelques pages, c'est pas très long à lire, mais vous pourrez comme ça y accéder plus facilement. Et donc j'en viens maintenant à Michel Henry, hein, puisqu'on voilà, on fait un peu j'ouvre des pistes, hein, plus que je n'analyse vraiment les textes ou les approches elles-mêmes, vu le temps dont on dispose, mais voilà, deuxième ouverture, deuxième piste pour penser cet irreprésentable. Donc à travers un auteur donc, qui met au premier plan l'affectivité, et peut-être juste pour introduire cette perspective couvre Michel Henry, on peut se référer à un petit passage d'un texte de Paul Ricoeur, que vous retrouverez dans le cours que je vais vous envoyer, donc voilà, vous n'êtes pas obligé de le noter, mais qui crée exactement ce déplacement, et je trouve que c'était intéressant de faire appel à Ricoeur pour introduire Michel Henry de ce point de vue-là. Donc Paul Ricoeur, dans un des textes où il commente ou sort, qui s'intitule « À l'école de la phénoménologie », donc c'est un texte encore assez initial de Paul Ricoeur, nous dit, donc je vous cite ce petit passage, il nous dit à propos donc de la conception phénoménologique qu'il veut mettre en avant lui aussi, il nous dit « Ce projet paraît d'autant plus légitime que l'affectivité vise et saisit quelque chose sans passer par la représentation. » Et il met à nouveau « représentation » entre guillemets. « Ce projet paraît d'autant plus légitime que l'affectivité vise et saisit quelque chose sans passer par la représentation. Elle met en présence sans proprement connaître. » Il paraît donc légitime de chercher du côté de l'affectivité l'ouverture sur le monde. Donc on a voilà, exactement ce jeu de déplacement, hein, cette redescente, hein, comment, comment, se, comment descendre en dessous, en deçà de la représentation, eh bien c'est là, dans le cas de Ricoeur, et Michel-Henri va être vraiment complètement sur cette piste-là, c'est par le biais de l'affectivité que ça se passe. Alors vous voyez, c'est pas contradictoire avec Lévinas, simplement c'est une autre voie, hein, on pourrait dire c'est une autre piste, c'est, voilà, on cherche, ce sont des recherches finalement qui se déploient de manière parallèle, comme une sorte de rayon d'un... De rayons autour d'un noyau, hein, on cherche à chaque fois à entrer de différentes façons. Alors c'est exactement ce que fait Michel Henry dès 1963, en fait, dans ce livre, dans l'essence de la manifestation, qui est son livre phare, en fait, hein, le premier grand ouvrage, enfin, qui va le faire connaître en partie. Et donc en fait, c'est à travers l'affectivité que Michel Henry va chercher justement à rendre compte d'un excès de la représentation. Donc c'est, vous voyez, c'est pas une critique, encore une fois, mais c'est vraiment l'excès de la représentation se trouve dans l'affectivité. Donc d'une certaine façon, pour Michel Henry, l'affectivité, c'est le champ de mon expérience qui n'a pas besoin de représentation, où la représentation finalement est inutile, est un succès d'année, est quelque chose qui n'a pas de, qui n'a pas besoin d'être mis en place. Donc ça c'est vraiment le geste propre de Michel Henry, qui est un philosophe qui va essayer de penser ce qu'on appelle l'immanence, donc une relation à soi qui ne passe pas par des médiations, qui ne passe pas par des raisonnements. Mais qui se situe dans une forme d'immédiateté. Alors, quand on dit penser l'immédiateté, là, vous voyez, à nouveau, on est dans des paradoxes, hein, mais justement, Michel Henry se tient dans ce paradoxe, hein, se tient dans cette expérience paradoxale, qui en réalité n'est paradoxale que si on la pense à l'aune, justement, de la représentation, de la connaissance, des distinctions, des médiations, des raisonnements. C'est parce qu'on se situe toujours dans cet horizon-là qu'on va considérer que cette sphère de l'immanence ou de l'immédiat, eh bien, elle est paradoxale. Elle n'est paradoxale que du point de vue qu'on adopte le plus souvent, qui est celui, justement, des médiations, des raisonnements et des représentations. Mais si on change de point de vue, c'est-à-dire si on se situe d'emblée au sein de cette immédiateté et de cette immanence, ben à ce moment-là, il y a une forme de cohérence interne, qui est la cohérence même de ce que Michel Henry appelle l'auto-affection ou l'affectivité, et où du coup la représentation elle-même apparaît, comme il le dit, inutile, comme quelque chose dont on n'a pas besoin, dont on peut se passer. Oui, enfin, donc tout dépend de la perspective qu'on adopte. Donc on a d'un côté ce mouvement-là, hein, donc de l'affectivité étant donc ce qui caractérise au plus près la relation de soi à soi, qui n'est d'ailleurs plus du coup une relation au sens strict, hein, mais en tout cas Michel Henry appelle cela du coup plus relation mais épreuve de soi, donc quelque chose où il y a une forme d'adhérence ou d'adhésion à soi, hein, donc de contact, d'immédiateté, enfin on a beaucoup de termes qui permettent de nommer finalement cette façon de se relier qui n'est plus un lien au sens objectif du terme. Donc on a d'un côté ce mouvement-là, et puis on a un mouvement qui est corrélatif de ce mouvement chez Michel Henry, qui est le fait que l'affectivité, eh bien, ça va être justement l'expérience source, et qui est elle-même à la source de toutes les représentations. Hein, donc là aussi, vous voyez, on a ce mouvement à la fois de dégagement d'une sphère originaire et d'immanence, et en même temps, cette sphère originaire d'immanence, eh bien, elle commande, finalement, c'est elle qui va commander la dynamique même des représentations. C'est-à-dire qu'en fait, le geste de Michel Henry, encore une fois, n'est pas un geste critique, au sens strict, c'est-à-dire qu'il ne dit pas, voilà, il faut déconstruire les représentations, on n'en a pas besoin. Il ne dit pas seulement ça, il dit aussi, en fait, c'est l'affectivité qui est la clé de compréhension de la représentation, qui est ce qui va me permettre, en fait, de comprendre ce qu'est vraiment une représentation. Et donc on pourrait dire à partir de là que la position de Michel Henry, c'est une position qui pense l'affectivité comme un nouvel a priori, d'une certaine façon, un peu au sens finalement même du geste kantien, dans la mesure où on a ce double mouvement qui peut se transposer, hein, comme on a chez Kant l'idée que finalement l'a priori ou le transcendantal, hein, est la condition de mon expérience ou des phénomènes, et en même temps il est indépendant des phénomènes, hein, il est à la fois indépendant et il est la condition même des phénomènes, et les phénomènes s'y appliquent, hein, on a ce double mouvement. Et bien de la même manière, on pourrait transposer en disant qu'en fait l'affectivité pour Michel Henry, c'est un a priori, peut-être un a priori matériel, pas formel comme chez Kant, mais c'est un a priori matériel qui est la source même finalement de mes représentations, et qui, et finalement les représentations s'appliquent à cet a priori, enfin sont en position d'application par rapport à cet a priori. Donc on a ce double mouvement, à la fois d'indépendance et d'application. Avec cette notion d'affectivité. Donc on pourrait dire que Michel Henry nous propose une sorte de modification phénoménologique de Kant, puisqu'on n'est pas simplement dans une dimension formelle, mais c'est vraiment l'expérience source qui va déterminer justement le rapport à la représentation. Alors dans le texte que je vous avais proposé, dans l'extrait de l'essence de la manifestation, dans le premier texte notamment, on voit que Michel Henry, en fait, crée ce déplacement également par rapport à Heidegger. C'est-à-dire que, si on, pour reprendre les choses de manière très globale, chez Heidegger, on a donc une pensée de l'être qui refuse d'entrer dans cette distinction sujet-objet, qui pour lui est une distinction ultérieure, construite, secondaire, qui régit la connaissance. Mais Heidegger essaye de creuser dessous en exhibant justement une pensée de l'être. Et bien d'une certaine manière, on pourrait dire qu'en fait, Michel Henry, à la place de l'être, va rebaptiser l'être comme affectivité. C'est-à-dire va donner un nouveau nom finalement à cet en-deçà, qui n'est plus l'être, mais qui est l'affectivité. Par rapport à ce que Heidegger appelle donc l'étant, hein, c'est-à-dire relève d'un domaine d'objectivité, eh bien Michel Henry va l'appeler représentation. Donc on a une sorte d'analogie, on pourrait dire, hein, l'être est à l'affectivité, ce que l'étant est à la représentation. Donc une sorte de déplacement et de renomination par Michel Henry des catégories de Heidegger. Donc, si vous lisez le premier extrait, vous verrez que c'est exactement le geste philosophique qu'adopte Michel Henry, et donc de déplacement finalement de la figure de l'être dans l'affectivité, et donc de la caractérisation de l'affectivité justement comme étant précisément de l'ordre de ce point de vue-là de l'irreprésentable, c'est-à-dire inscrit dans une forme d'immanence ou d'invisible aussi, c'est aussi le terme qu'il utilise, par distinction donc d'avec quelque chose qui relève au contraire du visible, de la transcendance, du monde. Donc on a des sortes de distinctions polarisées chez Michel Henry, un jeu de distinctions en fait, qui d'une certaine manière crée une dualité, on pourrait dire, hein, c'est l'immanence par rapport à la transcendance, la vie par rapport au monde, l'invisible par rapport au visible, hein, donc on pourrait dire voilà, on a une sorte d'espace de catégories là qui sont polarisées, qui peut donner l'apparence finalement d'une conception assez duelle dans la philosophie de Michel Henry. Mais en fait, cette dualité, elle est très vite reprise dans une dynamique. Et c'est ça le deuxième mouvement, en fait, qui est toujours relié au premier chez ces auteurs. C'est-à-dire le deuxième mouvement, ça va être un mouvement, justement, de genèse. Hein, c'est-à-dire qu'en réalité, l'affectivité, eh bien, c'est là encore la matrice, le s'éprouver soi-même, à partir duquel la source même de tout ce qui va pouvoir être pensé en termes de représentation. Donc on a un peu le même mouvement que chez Lévinas. Mais cette fois placé sur le terrain de l'affectivité. Vous voyez, c'est vraiment le même mouvement. On réforme finalement la représentation en situant la source dans l'affectivité. C'est à partir de l'affectivité qu'on impulse finalement une nouvelle compréhension, une possibilité de penser malgré tout la représentation, mais depuis cette matrice. Donc c'est le sens du deuxième extrait que je vous ai aussi proposé, hein, donc le paragraphe 70, où il est question justement de cette affectivité ou de cette auto-affection, comme source, hein, comme lieu justement de, invisible finalement de l'épreuve de soi, hein, comme quelque chose qui... Il y a chez Michel Henry des formulations par exemple qui jouent beaucoup sur la distinction de la nuit et de la lumière, ou de la nuit et du jour, hein, et comment l'affectivité, eh bien, elle est essentiellement dans la nuit, elle est essentiellement dans quelque chose qui ne se voit pas, Par rapport à quoi justement la représentation se situe sur le terrain de la vue, sur le terrain du visible. Donc là, on retrouve des choses qu'on a déjà vues au premier semestre, hein, autour de justement de la vision, de la visibilité, du rapport à la peinture, enfin, le fait que voilà, on entre dans quelque chose qui a une forme de luminosité. Donc il y a on pourrait dire cette sorte de métaphorologie chez Michel Henry qui fait jouer ces distinctions nuit-jour. Mais justement pour Michel Henry, c'est depuis la nuit que le jour émerge. Hein, donc là, on peut jouer sur ces images-là. Hein, c'est parce qu'il y a eu la nuit qu'il y a le jour. Hein, et d'une certaine façon, ben, on pourrait dire que c'est parce qu'il y a l'affectivité qu'il y a la représentation. Hein, donc dans une sorte de dynamique. Alors, si on peut dire, dans les quelques minutes qui me restent, on peut dire que la position de Jean-Luc Marion, eh bien, elle s'inscrit dans la même dynamique, hein, elle adopte également ces deux mouvements, donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de variation ou de déclinaison des trois auteurs les uns par rapport aux autres. Donc un double mouvement d'un irreprésentable qui est source de toutes les représentations. Et qui va se nommer différemment chez Jean-Luc Marion, mais dans une filiation assez explicite par rapport à Lévinas et à Michel Henry. Donc, on a chez Jean-Luc Marion, comme chez Lévinas et Michel Henry, ce qu'on pourrait appeler une phénoménologie de l'excès, donc quelque chose qui est vraiment dans un excès, mais qui est un excès en deçà, un excès dans un originaire. Hein, donc, vous voyez, là aussi, c'est un excès paradoxal si on le pense de manière trop linéaire. Hein, c'est-à-dire si on dit quelque chose de quelque chose qu'il est en excès, c'est-à-dire qu'il vient en plus, on va avoir tendance à le situer après. On va dire ça vient en plus, c'est au-delà, enfin, c'est a posteriori, enfin, etc. Donc on le linéarise, hein, on en fait quelque chose dans l'après. Or en fait, vous voyez que la pensée de ces auteurs, elle n'est pas linéaire, elle est d'une certaine manière, en épistémologie, on dirait elle est circulaire, c'est-à-dire qu'en fait, ils pensent un excès qui est originaire. Donc il pense à quelque chose qui est a priori situé au-delà comme étant premier. Donc si on raisonne dans des catégories temporelles ou linéaires, on va dire c'est paradoxal, c'est contradictoire. On raisonne dans des catégories qui sont logiques. Mais en fait, ces auteurs se situent sur un autre plan que le plan de cette logique-là, en tout cas, et ils adoptent un autre type de logique qui a cette dimension donc de circularité et qui en fait permet de penser. Donc, une réalité archaïque, une réalité qui est située à l'origine, qui est située entre guillemets au commencement, mais qui est un excès. Hein, donc, il y a une sorte comme ça, on pourrait dire, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, hein, donc une sorte de truc ouroboros, mais qui en fait, en réalité, permet de penser une autre dynamique que la dynamique temporelle, standard, en tout cas de la logique formelle dans laquelle on raisonne habituellement. Donc c'est aussi une façon pour eux de casser en acte, dans leur manière même de penser, de casser quelque chose qui serait un raisonnement, ou qui consisterait à dire que justement, dans l'ordre même de la représentation n'a lieu que parce qu'il y a la présentation, etc. Enfin, donc de casser cet ordonnancement standard qui est l'ordonnancement de notre logique et de notre raisonnement habituel. Donc ça se joue, vous voyez, dans l'ordre même de la manière de penser. Donc ça va très loin, c'est assez profond. C'est pas juste d'autres notions ou d'autres termes qui apparaissent. C'est vraiment la manière même de s'exprimer et de penser qui est transformée, hein, à partir de là. Donc on a chez Jean-Luc Marion donc ce même geste, ce même double mouvement et ce même geste circulaire et qui va être nommé à travers donc d'autres termes qui sont là aussi des variantes, des possibilités autres d'expression qui va être nommée donc à travers donc la notion donc la figure entre guillemets de Dieu ou du divin comme étant l'invisible absolu. Donc, ce qui d'aucune manière finalement ne peut se donner, ne peut apparaître dans la lumière justement, ne peut être représenté. Donc là, bon, il y a des références très fondamentales en fait de notre civilisation qui sont en jeu à travers ce texte, notamment par exemple de la Genèse que vous connaissez, où on a donc cette formulation du Dieu qui s'exprime et tu ne feras pas d'image taillée, hein, tu ne feras pas donc de image taillée en fait dans le texte grec, notamment dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, c'est eidolon. Hein, donc c'est le terme qu'on retrouve aussi chez, enfin, qu'on trouve déjà plutôt chez Platon, et qui désigne justement l'image, mais au sens, en théologie, au sens de l'idole, hein, au sens donc d'une réalité objective qui finalement est dégradée par rapport à la relation à l'invisible. Donc on a ça à donner tout ce qu'on appelait l'iconoclasme, hein, c'est-à-dire le fait de la critique des idoles, la critique des images. Hein, et donc par rapport à cela, la réalité à laquelle Marion se réfère, eh bien, c'est justement cet invisible, hein, qui ne peut pas se représenter, qui ne peut pas entrer dans un processus d'image, ou ne peut pas s'imager. Donc à partir de là, en fait, Jean-Luc Marion va adopter ce vocabulaire théologique, et en même temps il va le polariser en montrant que cet excès de la représentation, qui est l'originaire même de la représentation selon lui, eh bien, se joue justement dans cette zone qui est une zone d'invisibilité, une zone de non-manifestation d'un certain point de vue, et qui se figure malgré tout, hein, c'est là tout le paradoxe, qui se figure malgré tout en termes non pas d'idole, mais d'icône. En fait, ce que Jean-Luc Marion va faire, c'est de reprendre ce vocabulaire théologique pour le faire servir à sa conceptualisation philosophique et à la description phénoménologique qu'il cherche à mettre en œuvre à partir de là. Et donc, de ce point de vue-là, l'icône, eh bien, ça va être justement cette réalité qui permet de faire entrevoir quelque chose de cet invisible absolu. Donc c'est assez intéressant parce que du coup, chez Jean-Luc Marion, on n'a pas une perspective peut-être aussi radicale, en fin de compte, que Lévinas ou Michel Henry. Et on n'a pas une perspective aussi extrême, puisqu'en réalité, par le biais de l'icône, eh bien, on a une sorte de retour possible à une forme de figuration de cet irreprésentable, mais dans des coordonnées qui permettent de mettre en scène, de tenir compte justement d'une relation à l'invisible. Donc on a quelque chose comme une relation possible à l'invisible à travers donc un mode d'apparaître qui n'est pas de l'ordre de la représentation au sens standard du terme, ou en tout cas au sens où le serait l'idole, mais qui permet quand même de s'y rapporter d'une certaine façon. De la même manière, peut-être qu'on pourrait dire que, par exemple, par rapport à cette non-expérience qui est un trauma chez Lévinas, quelque chose comme une thérapie corporelle ou l'hypnose sont un mode d'accès. Vous voyez, enfin, il faut trouver le mode d'accès adéquat, épousant ce qui est en jeu dans cet irreprésentable. Hein, donc, c'est assez intéressant d'avoir cette analogie en tête parce que ça permet de comprendre finalement le changement de plan auquel on doit se situer pour pouvoir entrer dans cette zone-là, d'une certaine façon. Hein. Et par exemple, on trouve dans un certain nombre de textes théologiques qui parlent de l'icône, et auxquels Marion se réfère également, on a des formulations assez courantes qui justement insistent sur le fait que l'icône n'est pas quelque chose que l'on regarde, donc le mouvement d'un sujet, de moi-même en l'occurrence, qui regarderait comme si je regardais un tableau, comme si je regardais quelque chose qui relève d'une forme de représentation. Donc je ne regarde pas l'icône, mais comme le disent beaucoup de textes mystiques, c'est l'icône qui me regarde. Donc on y a un changement de perspective qui fait qu'en fait c'est le, entre guillemets, l'irreprésentable qui a un effet sur moi, qui m'affecte, qui entre guillemets me regarde. Donc il y a un changement, vous voyez, de polarité ici, donc qui remet complètement en cause la distinction sujet-objet, et qui met l'icône justement en position de me subjectiver d'une certaine façon. C'est plus moi qui suis vectrice en l'occurrence, mais c'est cette réalité donc invisible qui m'affecte et qui a un effet sur moi. De même que, d'une certaine façon, on pourrait dire que chez Lévinas, le trauma, eh bien, c'est aussi quelque chose qui a un impact sur moi. C'est pas moi qui vais accéder au trauma, mais c'est le trauma qui va venir, d'une certaine manière, à un moment donné à moi, et qui va me transformer ou me permettre, qui va m'affecter. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, hein. Donc l'idée c'était d'essayer de vous un petit peu vous faire aller jusqu'au un certain nombre de points limites de cette notion de représentation. Mais voyez, en même temps, à la fois on est dans des avant-postes un peu extrêmes, et en même temps on voit bien comment ces auteurs s'attachent également à penser, donc forcément à un moment donné à retrouver des liens, à recréer du lien et à recréer du lien, mais en faisant jouer des transpositions, hein, en mettant en place d'autres niveaux, finalement, d'autres modes de relation à soi. Donc une façon de comment dire, de se relier autrement, hein, et de changer de niveau, de changer de perspective à partir de là. Et de nous faire entrer dans une logique qui est, comme je disais, plus une logique simplement linéaire du raisonnement, standard, logique. Ou en tout cas une autre logique, une logique alternative qui passe par des formes de circulation, hein, et d'un retour à soi, mais avec donc ces mouvements donc de reprise, qui sont des reprises situées à un autre niveau. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et que je ne sais pas si je ne vous ai pas beaucoup laissé la parole pour poser des questions ou pour m'interrompre, mais on peut le faire encore si vous avez quelques minutes, s'il y a des choses que vous avez envie qu'on reprenne ou des questions, des choses qui vous ont vous avez pas voilà, qui vous semblaient pas claires, vous voudriez qu'on revoie d'autre façon. Non. Bon, c'est un peu.
Non, merci.
Ben, merci à vous.
C'était clair.
Oui. Ah, j'ai un bravo de My League. Donc, bon, c'est un peu raccourci, hein. J'ai bien conscience que voilà, en arrivant un peu en fin de parcours, et ça aurait été bien d'avoir plus de temps pour explorer de plus près ces différents auteurs. C'est un peu un condensé, et ça demanderait évidemment beaucoup plus de temps. Mais bon, j'aurais trouvé dommage de pas vous proposer cela au moins en fin de parcours, pour que ça, voilà, ouvrir d'autres perspectives. En voyant en même temps comment ça permet de récapituler des choses qu'on a déjà vues, hein, et de repasser par un certain nombre de points qu'on a déjà travaillé. Par exemple, je pense qu'il y aurait des choses intéressantes à creuser autour de ce que Marion met en scène en termes de relations idole-icône. Et de la toute la cette énorme question de la mimésis, de l'imitation, voyez, enfin, je pense que là, au niveau, on peut le transposer sur le plan artistique aussi. Il y a un énorme chantier là, évidemment, à creuser, que j'ai pas pu traiter, enfin, que je peux qu'esquisser, mais qui serait vraiment intéressant à aller explorer autrement, enfin, en quoi l'icône n'est pas une représentation au sens artistique du terme, pourquoi, enfin, qu'est-ce que c'est, enfin, donc, oui, enfin, on rentre dans des questions qui justement font appel à cette dimension limite de ce que ça signifie représenter. Et en même temps, ça s'y relie, enfin, forcément. Enfin, voilà.
Bah, merci beaucoup, c'est très très riche.
Ouais, peut-être un peu trop.
Ah ben, on va réécouter.
Voilà. Donc voilà, vous avez un peu plus d'une heure d'enregistrement. Donc normalement, vous avez l'essentiel en une heure, condensé en une heure. Et donc surtout, n'hésitez pas. Si en écoutant à nouveau, vous voyez des choses qui ne vous semblent pas claires, ou en tout cas des points sur lesquels vous auriez envie de plus d'éléments. Voilà, vous pouvez m'écrire et puis je pourrais vous indiquer si j'y arrive, enfin, d'autres éléments pour compléter, pour vous aider à avancer. Et voilà, j'espère malgré tout que voilà, vous allez réussir à franchir l'obstacle de cette situation infernale de confinement, et voilà, et garder un bon moral. Restez concentrés, motivés, faites-vous plaisir en faisant des choses intéressantes, soyez en relation les uns avec les autres, c'est important, Donnez-vous des coups de pouce s'il y a besoin, si certains sont un peu en mode blues. Voilà, aidez-vous les uns les autres et puis on devrait y arriver, on devrait passer le cap et voilà, moi je suis convaincue que voilà, on a le droit d'avoir des moments d'effondrement, ça fait partie de ce qui nous arrive, mais voilà, vous n'êtes pas tout seul, hein, donc faites-vous aider, faites-vous confiance les uns avec les autres et il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Hein. Alors, en tout cas, n'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Non, je ne suis pas thérapeute ni coach, mais bon, je, je ferai de mon mieux.
C'est déjà pas mal, hein.
Bah, voilà, après, chacun doit rester à sa place. Hein. C'est vrai que je pense qu'il ne faut pas non plus...
Non, mais ça donne des pistes.
Ouais, c'est un peu l'idée. Hein. C'est un peu l'idée. Après, le soutien, voilà, il est collectif aussi. Enfin, je pense qu'il y a des... Vous êtes, même si vous allez bientôt, voilà, le confinement est bientôt arrivé à terme, là, fin, vous allez pouvoir vous retrouver en chair et en os, comme disent les phénoménologues. Et voilà, et n'hésitez pas à me. Voilà, on peut même se téléphoner s'il y a besoin, hein, si vous avez besoin de quoi que ce soit. On trouvera une solution par rapport à. Notamment aussi par rapport à vos soucis de validation. Mais voilà, le plus important c'est de vous manifester. Je pense que voilà, moi je peux pas aller vous chercher plus, je le fais déjà, mais voilà, c'est faut vraiment que vous sentiez très très tranquille et très libre pour venir me chercher, m'envoyer des messages et qu'on discute. Hein. Et pour
vous. Merci à vous, bon courage aux étudiants.
Ben merci, oui merci Annick, à bientôt. Voilà. On va se quitter, sauf s'il y a vraiment une question urgente de l'un ou de l'autre encore. Non ? Cynthia ? Non, ça va ? Wally, ça va ?
Est-ce que tout le monde a réussi à avoir le lien pour le contrôle d'anglais ? C'est juste pour vérifier que tout le monde a pu passer le contrôle, par exemple. Ceux qui sont dans mon contrôle d'anglais.
Moi, je suis en train de travailler là-dessus.
Ok, bah, super, pour être sûr.
D'accord. Bon, n'hésitez pas, vous savez comment procéder par ce biais, par Zoom également. Si vous avez besoin d'être en contact les uns avec les autres, vous pouvez vous programmer des petites rencontres comme ça aussi. Hein. C'est très facile, c'est gratuit et... Voilà, ça peut aider hein, de pouvoir être en interface même visuellement. Donc, c'est facile à mettre en place. Oui ? Lauriane ?
Oui.
Non, ça va ?
Ça va.
Ça va. Paco, ça va ? Oui ? C'est un oui ?
Oui.
Bon, très bien. Bon, je vous embête pas plus longtemps. On reste en contact, hein, quoi qu'il en soit. D'accord ? Allez, je vous dis à bientôt. Et puis, bonne poursuite. Et protégez-vous bien encore. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.